Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'environnement, l'économie, l'autre et les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de mettre des étoiles là où c'est possible, de le commenter, de le partager, d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
On prie dans les synagogues depuis le prophète Jérémie, qui nous a dit « It palela bishloma shamalchut » « Priez pour la paix du royaume dans lequel vous êtes, car de sa paix dépend votre paix ». En gros, depuis le prophète Jérémie, on sait que si la République est forte, alors la sécurité des Juifs, comme la sécurité de chaque citoyen, sera assurée. En revanche, si la République est faible, pour attaquer, la question de la place des Juifs se pose.
La sécurité, la liberté de culte, la laïcité sont des sujets récemment mis sur le devant de la scène. Pour ma part, j'ai été profondément meurtrie récemment par l'assassinat du docteur Sarah Halimi, mais surtout par la décision de justice qui s'en est suivie. J'ai donc eu envie d'inviter dans mon podcast le grand rabbin de France, qui a accepté mon invitation et m'honore de sa présence. Avec cette illustre personnalité dotée d'une simplicité presque déstabilisante et d'une culture riche et étonnante, nous avons abordé de nombreux sujets qui me tiennent à cœur. Le lien social, la fragmentation de la société française, mais également la diversité et l'unité de cette nation, la loi sur le séparatisme ou de réaffirmation des valeurs républicaines, mais également du pacte social français mêlant droits et devoirs, de GPA, rien à voir, de parentalité, et de la nécessité pour la jeunesse de construire son adaptabilité. C'est un podcast qui me marquera, comme tous les autres bien entendu, mais qui a une grande importance pour moi en ce moment. J'espère que vous y trouverez, tout comme moi, de la sagesse, de la culture et de l'apaisement. Alors je vous souhaite une très bonne écoute avec le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Monsieur le grand rabbin de France, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée, particulièrement en ce moment, où je suppose que vous avez une actualité débordante, d'une part par le triste événement qui vient de se produire, mais par ailleurs parce que vous êtes également en lice à votre propre succession. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Mais avant de commencer, en fait, j'aimerais vous poser une question toute bête, c'est de vous présenter, si c'est possible.
Difficile de se présenter, donc je m'appelle Raïm Korsia, je suis rabbin, et voilà.
Alors, peut-être nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste la fonction de grand rabbin de France, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde aujourd'hui.
Bon, c'est pas le but, je suis pas en campagne, mais globalement, le grand rabbin de France, c'est, je pense, quelqu'un qui, à la fois, porte la parole très diversifiée de la communauté juive et qui crée du lien entre toutes les communautés. Comme une forme d'abeille qui vient voir ce qui se passe ici pour essayer de transposer cette expérience qui fonctionne ici pour la mettre là-bas. J'ai vu, par exemple, des choses formidables se faire ici ou là. Les communautés ont besoin de se rencontrer, de partager des choses, de partager des espérances, de partager de l'expérience. Et le grand rabbin est celui qui permet à tout cela de trouver une forme d'homogénéité. En tout cas, j'essaye.
J'ai une autre question qui vient juste après, mais l'homogénéité au sein de la communauté juive en France, est-ce que vous pensez qu'elle est plus ou moins accentuée maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années? Qu'est-ce que vous ressentez justement en termes de lien à l'intérieur de la communauté?
Pour répondre dans un sens ou dans l'autre, au fond, notre société aujourd'hui est très fragmentée, donc par nature, la communauté juive suit le sens de la communauté nationale qui va vers la fragmentation. Chaque rite va retrouver son histoire, son importance. Chacun va avoir tel ou tel niveau de pratique d'orthodoxie. Mais en même temps, on a quand même une forme d'unité assez incroyable. Et l'unité, c'est par nature la diversité. C'est-à-dire que l'unité n'est pas l'uniformité. Donc, il y a cette notion d'unité de la communauté juive dont on a pu percevoir quelque chose de magnifique dimanche dernier, avec même au-delà de la communauté juive, parce qu'il y avait beaucoup de juifs dans la manifestation, mais il y avait beaucoup de non-juifs qui partageaient les espérances, les inquiétudes, l'envie de dire non à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et le fait d'être ensemble dans cette diversité, c'est ça l'unité. C'est ce qu'on a voulu symboliser avec un moment de cette manifestation qui a été assez merveilleux, quand, avec tous les représentants des cultes, nous avons récité ensemble la prière pour la République, que nous restons dans les synagogues. C'est l'idée que chacun, avec sa foi, est différente, et que les personnes dans la foule, avec leur athéisme, qui est leur droit, mais on pouvait espérer ensemble.
Justement, je voulais revenir, c'était ça ma question, parce qu'on parle de la manifestation, donc pour le rappeler, puisque ce podcast pourra peut-être être entendu dans un an ou dans deux ans, c'est la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier concernant le meurtre de Sarah Halimi et les responsabilités qu'a décidé la Cour de cassation concernant la personne qui l'a tuée. Outre ce que vous venez de me dire, qu'est-ce que vous avez ressenti profondément ce jour-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti qu'il y avait... que c'était sans précédent ? Est-ce que vous avez ressenti que c'était
sans précédent ? Non, je ne vous dirai pas ça, parce que j'ai eu le grand honneur de marcher aussi le 11 janvier 2015.
Aux attentats ?
Suite aux assassinats de Charlie Hebdo, des policiers et des clients de l'hypercachère. Mais donc, ce sentiment immense, incroyable de fraternité, on l'a senti et on l'a déjà perçu. Mais là, je crois qu'il y avait cette nécessité de se retrouver justement dans ce désir d'unité. C'est-à-dire, nous sommes tous différents, mais on vibre à l'unisson dans nos différences. C'est une très belle vision de ce qu'est la société française. Finalement, cette manifestation était ce moment que la société rêverait de pouvoir vivre plus souvent, où on se retrouve.
Oui.
Avec quand même, disons-le, petite pointe de fierté tout de même. Vous voyez, des manifestations, il y en a à Paris. Beaucoup. Vous savez, une manifestation avec 20 000 personnes, pas une voiture abîmée, pas une devanture de magasin cassé, pas de saccage, pas de violence, pas de queue de manif, juste le bonheur de se retrouver. Bah, franchement, c'est assez rare pour être signifié, parce que même quand on fait la fête après des matchs de football, il y a toujours de la casse. Comme si rassembler des gens, c'était par nature briser quelque chose. Là, il y avait une telle unité, une telle symbiose, que c'était justement cette forme d'espérance apaisée d'une société diverse mais rassemblée.
Pour enchaîner sur l'espérance et la nécessité d'avoir effectivement, parce que j'ai écouté beaucoup de vos interviews et vous parliez du fait que l'espérance religieuse devait apporter quelque chose justement de spirituel à une nation et qu'il fallait compter sur les religions aussi pour apporter une croyance, pour qu'on croit, quelle que soit la croyance, qu'on croit ensemble. Vous avez été auditionné le 3 février dernier, je crois, par le Sénat concernant la loi... alors, je ne sais plus comment on doit la nommer, mais je crois que c'est la loi sur
la réaffirmation des valeurs de la République.
Voilà. Bon, alors, à une époque, c'était le séparatisme. Bon. Alors, je ne vais pas vous redemander de parler de ce que vous avez déjà dit, mais dans les grandes lignes, pour ceux qui ont peut-être un peu oublié, parce qu'on va tellement vite dans l'information que tout se succède, les grandes lignes de ce que vous avez voulu souligner quand vous avez été entendu par le... ou plutôt, je ne sais pas si on peut dire, auditionné par le Sénat.
En fait, c'est la même question qui est posée. C'est comment créer de la diversité et en même temps de l'unité, pour pas que la diversité soit source de séparatisme, justement. Et certains ne comprennent pas ce principe républicain. Certains considèrent que pour être soi-même, il faut être séparé des autres. Et attention, je n'accuse pas que les uns ou les autres. Je dis simplement, il se trouve qu'en France, ce séparatisme est porté par une vision déviante de l'islamisme, qui n'est pas l'islam. Mais cette pulsion séparatiste, elle existe partout, y compris chez nous. Sauf que, grâce à Dieu, elle ne se manifeste pas avec une telle violence et une telle... Enfin, n'oublions pas, c'est pour ça que j'étais un peu dubitatif quand certaines religions disaient « Pourquoi faire une loi ?» Pourquoi faire une loi ? Parce qu'on a égorgé un professeur au nom de valeurs qui sont censées nous empêcher de vivre ensemble. Donc on a égorgé un professeur, on a égorgé des fidèles dans une église, on a menacé des juges dans les synagogues. Il y a un niveau de violence dans la société, cette violence que nous produisons, nous sommes tous des producteurs de cette violence. Donc il faut comprendre les racines, il faut lutter contre, il faut donner des éléments juridiques pour que l'État puisse lutter contre cette pulsion séparatiste. Et je vais vous donner un exemple très concret, très précis. Parfois, malheureusement, le bon sens devrait être évident, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Il y a un monsieur qui a un titre de séjour accordé, un monsieur étranger qui a un titre de séjour, je crois qu'il est tchétchène, de tête, bon, réfugié politique. Okay. Donc, menacé dans son pays, on l'accueille. C'est la grandeur de la France d'accueillir celles et ceux qui sont menacés dans leur pays. Sauf que cette personne a été condamnée 4 fois pour apologie du terrorisme. je trouve légitime qu'à un moment, l'autorité préfectorale, en l'occurrence de l'État, décide de lui retirer son titre de séjour en tant que réfugié politique.
Bien sûr.
On y va au Conseil d'État. Eh ben non. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on peut retirer un titre de séjour à quelqu'un qui est condamné pour terrorisme, mais comme le texte ne dit pas pour apologie du terrorisme, on ne peut pas. Bon, je trouve que c'est inadmissible.
Et là, maintenant, il faut changer la nouvelle loi.
Il faut changer la loi.
Et là, avec cette nouvelle loi, on peut.
Oui, c'est un exemple, mais c'est un petit exemple très clair, parlant. Mmh. Globalement, j'ai la certitude que cette loi est nécessaire. Maintenant, elle pose deux questions. La première, c'est que le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme et une grande partie de l'islam ont toujours joué le jeu de la République. Donc, on prend le risque d'avoir des conséquences pour nous. Mais c'est un risque à prendre parce qu'on doit être armé collectivement pour lutter contre quelque chose qui est tellement incompréhensible pour nous qu'on n'arrive plus à lutter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir les armes pour lutter contre. Donc, cette loi a cette vocation. Et moi, honnêtement, que par exemple, on oblige les associations à adhérer à une charte républicaine, mais moi, je serais prêt à le faire pour toutes les associations.
Bien sûr.
Pas que pour les associations cultuelles. Mmh. Non, associations de clubs de boules ou d'amateurs de vieilles Renault Caravelle. Mmh. Si vous aimez les voitures, vous aimez les Renault Caravelle, vous réunissez en club, vous devez signer que vous aurez toujours une adhésion aux valeurs républicaines. Moi, ça ne me gêne pas. Ou le club de boules, les joueurs de boules, je ne sais pas où. Donc, cette nécessité, elle ne me gêne pas, et je pense qu'il faut remettre des règles. D'où le principe de réaffirmer les valeurs républicaines. En fait, comme toujours, on oublie de réaffirmer ce qui est important pour nous. Donc là, la République nous dit, on va le faire. Après, voilà, après, il y a un jeu politique qui fait que ça passe, ça passe pas, c'est compliqué. Et que l'opposition, par nature, trouve toujours que ce que la majorité fait, c'est pas bon, et vice-versa. Mais je crois qu'il y a des moments dans l'histoire de notre pays où on doit se rassembler tous. Donc là, il y a une lutte à mener tous ensemble. Et c'est la suite du discours du président de la République au Mureau, qui dit, pour la première fois, voilà contre quoi on lutte, l'islamisme radical. Donc, on a clairement l'objectif, il faut qu'on se batte tous ensemble.
Sur le diagnostic que vous faites en France, donc il est à la fois positif et négatif, je suppose. Pour rappel, effectivement, dans toutes les synagogues, on prie pour la République. Quels sont les aspects positifs que vous voyez ressortir? Finalement, quand on prie pour la République française, à la fois on prie pour que se perpétuent les points positifs, mais pour ne pas voir le tableau tout noir, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez de positif à dire sur la France ?
Pardon, mais on ne prie pas uniquement quand tout va bien.
Bien sûr.
En général, quand tout va bien, on ne prie pas. L'expérience me montre qu'on me demande plutôt de prier pour les gens qui ne vont pas bien. En revanche...
On le fait depuis toujours, hein, dans une synagogue en France.
On prie dans les synagogues depuis le prophète Jérémie, qui nous a dit « Itpalela bishloma shamalchut » « Priez pour la paix du royaume dans lequel vous êtes, car de sa paix dépend votre paix. » En gros, depuis le prophète Jérémie, on sait que si la République est forte, alors la sécurité des Juifs, comme la sécurité de chaque citoyen, sera assurée. En revanche, si la République est faible, pour attaquer, la question de la place des Juifs se pose. La question de la place des Juifs, c'est un enjeu. Mais chaque fois que il a fallu se battre. Et on peut toujours voir les choses, bien ou mal. Si je vous dis comment c'était la situation des Juifs à l'époque de Dreyfus, l'affaire Dreyfus, vous allez me dire que c'était catastrophique, machin. Oui, c'est vrai. Mais le père de Lévinas, en voyant qu'un pays pouvait se partager en deux au moment de cette affaire, a dit à son fils, un pays qui se divise pour l'honneur d'un petit capitaine juif est un pays où les Juifs doivent aller vivre. Et c'est comme ça qu'il décide d'aller en France. Donc, on comprend bien qu'il y a une histoire d'amour avec la France, entre la France et le judaïsme. C'est le 27 septembre 1791 que les Juifs deviennent citoyens à part entière. Et il y a eu cette façon que la France a eu de porter des valeurs convergentes avec celles du judaïsme. Ce que disait le grand Macaplan. Mais c'est ce qu'on vit, à condition que la France ait suivi à ce qu'elle est. D'où l'idée de prier, parce que le prophète Jérémie nous le demande, mais parce que prier pour la France, c'est prier aussi pour agir pour la France. La plus belle des prières, c'est l'action.
Bien sûr.
Donc, au fond, qu'est-ce qu'on demande ? Bâtissez la République. Ne soyez pas juste des consommateurs de la société. Ouais. Bâtissez la société.
Alors justement,
ce que le judaïsme a toujours fait.
Ouais. J'enchaîne un peu sur une question un peu délicate, mais beaucoup, en tout cas moi je l'entends malheureusement, hein, beaucoup de juifs souhaitent quitter la France, beaucoup l'ont déjà fait. Ça vous révolte, ça vous énerve, ça...
Non, c'est la liberté de chacun et chacune qui est idéale, c'est un choix et pas le sentiment de devoir fuir parce que ça pose une question pour l'ensemble de la société. Et j'ai conscience que des gens, juifs et non-juifs d'ailleurs, mais en particulier des juifs, ne trouvent plus leur place dans une société où on leur dit « Votre enfant ne peut pas rester dans l'école publique, vous devez le mettre dans le privé ». Ce qui arrive, il y a un proviseur qui a écrit un livre à Marseille, il raconte ça. Donc j'ai conscience de cette souffrance et le sentiment de ne pas être parfois protégé. On voit bien avec l'histoire de ce drame de l'assassinat du docteur Sarah Halimi, où...
On peut le préciser, c'est vrai, docteur. Parce que,
j'ai toujours dit docteur, elle a dit docteur, c'est docteur Sarah Halimi, point. Et j'ai le sentiment que beaucoup se disent, c'est une sorte de message subliminal qui est envoyé, bon, allez, on peut rien faire, c'est pas grave, c'est normal. Non, c'est pas normal, on peut faire. Donc il faut se battre pour que la société soit plus fraternelle, plus conforme au rêve qu'est la République. Et l'idéal n'est jamais atteint, c'est un horizon. Donc on essaie de construire cette société, mais je conçois que si des gens ne sont pas en sûreté, ils veulent partir. Et d'ailleurs, ils ne partent pas qu'en Israël, ils partent partout ailleurs dans le monde. Il y a des Juifs qui partent en Amérique, il y en a qui vont en Suisse, en Espagne maintenant, au Portugal. Et ça pose question sur notre société qui n'arrive plus à assurer la sécurité de ses citoyens, tous ses citoyens. Et ça pose la question de la, je dirais, du pacte social qui est celui défini Hobbes dans Léviathan, où on concède une part de notre liberté à l'État en contrepartie de la garantie de sécurité. Sauf qu'on a de plus en plus de parts de liberté qu'on concède et de moins en moins de sécurité. Et je ne vous dis pas ça uniquement en tant que juif, mais en tant que citoyen. Ou avec ce qu'on entend, regardez récemment encore les agressions à la maison, je sais pas, Bernard Tapie, son épouse et d'autres, et d'autres, au quotidien dont on ne parle pas. Il y a une sorte de violence dans la société contre laquelle, à mon avis, le pouvoir politique doit lutter. Sinon, comme le dit le Talmud, l'homme vivant avalera son prochain.
Mais ce n'est pas que le pouvoir politique, non ? Parce que moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une déliquescence de l'autorité au sens propre du terme, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire que moi, j'observe quand même que bien souvent, des gens qui en arrivent à la violence ou à des actes de révolte sans limite sont des gens qui ont été lâchés un peu dans la nature, qui n'ont pas eu d'autorité paternelle, qui n'ont peut-être pas eu d'autorité maternelle. Enfin, ce n'est pas forcément ce que je pense. Alors après, je ne me fais pas des amis en disant ça, mais je pense que ça part aussi du foyer. Ça part aussi du foyer, non ?
Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que le foyer, c'est aussi la conséquence de la violence de la société, qu'il n'y a plus la sorte de protection de cette bulle familiale. Mais c'est vrai que la société est remplie de violence partout, y compris la violence intrafamiliale, dont on parle pas assez, mais qui est apparue avec le confinement, où il y a des situations d'une violence incroyable partout, d'ailleurs. Mais peut-être qu'il faut essayer de lutter contre cette violence dans la société. Alors, j'ai parlé du pouvoir politique. Chacun a sa part, évidemment.
Là, c'est des questions un peu plus génériques, au-delà de votre fonction, si je puis me permettre. Quel conseil vous donneriez à la jeunesse aujourd'hui, qui a quand même pris une grande claque dans la figure avec la pandémie, notamment ? Mais est-ce que vous avez des grands messages à faire passer auprès de la jeunesse ?
On peut leur donner les conseils qu'on veut, mais la génération qui arrive doit faire son expérience et doit construire son avenir. On peut les aider. Et chaque génération peut compter sur la précédente. En fait, elle compte sur elle. Et c'est ça qui est plus important. Cette génération, les jeunes, ont vécu quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Maintenant, ils n'ont pas vécu la guerre.
Je suis d'accord.
Ils n'ont pas vécu...
Non, mais ils ont vécu l'isolement, la fin des petits boulots, etc.
Je suis d'accord. Ça, c'est terrible. C'est que tout ce qui permettait, cette petite économie qui leur permettait...
De
sortir de la dépendance de la génération au-dessus.
C'est ça.
Et ça s'est écroulé. En même temps, il y en a qui ont pu continuer. Donc, je pense que la force de la jeunesse, c'est l'adaptabilité.
Leur
capacité à innover, à inventer de nouvelles solutions. Alors, évidemment, on pourrait dire, mais il faut les aider. Mais il faut les aider. Mais les aider à inventer quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Donc, en revanche, les aider à croire en eux, ça, on peut. Et ça, c'est la garantie d'une génération de conquérants. Au sens que il faut qu'on leur dise, on a confiance en vous. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que vous trouverez le moyen d'affronter ce qui va se passer. Le conseil que je leur donnerai, c'est ça.
Je passe du coq à l'âne parce qu'on a peu de temps et je ne veux pas vous prendre trop de votre précieux temps. Je vous ai entendu sur la GPA et j'ai beaucoup apprécié votre discours. Alors, je ne suis pas forcément, encore une fois, me faire des ennemis, certainement, mais quel est votre point de vue sur la GPA ?
Bon, déjà...
Gestation pour autrui, faut-il le préciser ?
Déjà, quand on change le nom d'une réalité, c'est que la réalité est insupportable. Au départ, ça s'appelait mère porteuse. La mère porteuse, c'est horrible. Alors, on a dit gestation pour autrui. Vous voyez, autrui, c'est altruiste, on s'est dit, c'est mieux. Puis après, on est passé à GPA. GPA, c'est neutre, ça ne fait rien, on ne sait pas ce que c'est. En réalité, on part de quelque chose de terrible. La programmation d'un abandon.
Exactement.
On va abandonner un enfant. C'est programmé. C'est quelque chose de terrible. Alors après, chaque histoire est unique et vraiment, je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui souffrent et qui trouvent dans cette gestation pour autrui quelque chose qui répond à leur demande. Mais il y a deux principes absolus en France. C'est d'abord la gratuité du don, ce qui n'est pas le cas ici, et l'anonymat du don, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Donc on met des principes et on veut les contourner, c'est pas possible. Alors ce que je dis, c'est
je sais d'ailleurs pas où est-ce que c'est le cas.
Il y a des pays où c'est permis. D'accord. Je discute pas, moi, je discute pas le bien fondé de la législation.
Oui, et la gratuité réunie à l'anonymat, la combinaison des deux, je sais pas si ça existe.
Par exemple, quand quelqu'un fait un don d'organe.
Ça oui, mais concernant la gestation pour autrui, je crois pas.
Ouais, ouais. C'est toujours payant.
Voilà.
Et c'est toujours non anonyme puisque par nature vous payez la personne qui vous demandez. Porter un enfant pour vous, par insémination artificielle ou autre. Mais ce qui me semble incroyable dans cette affaire, c'est que, encore une fois, quand quelqu'un a une impossibilité, bon, il essaie de faire comme il peut. Mais quand certains le font par confort, s'entendent du mot « je veux un enfant, mais je ne veux pas le porter », ça pose question sur ce qu'on est prêt à faire.
Le transhumanisme, en fait.
Pour avoir, on est prêt à pour changer la nature forme humaine. D'humanité non dépendante de son humanité. C'est pas possible. Et puis, je vous le dis, il y a une sorte de marché de l'enfant qui est insupportable avec des tarifs. Hein, je vous donne des tarifs en Ukraine, en Amérique, en Inde, des tarifs différents. Donc, là, c'est pas possible. En revanche, là où je suis un peu plus modéré, c'est. Je suis absolument contre, parce que ça ne peut pas se faire au nom du peuple. Mais. Si quelqu'un a fait à l'étranger qui vient avec un bébé, on ne va pas lui dire, on ne veut pas voir ton bébé, il existe, il est là. Donc il faut qu'on soit en fait capable de dire non, ce n'est pas le bien, mais on comprend. Et cette compréhension, c'est-à-dire l'entendement de la douleur des hommes et des femmes qui veulent passer par toutes ces méthodes, il faut entendre ce besoin en fait d'enfants, de poursuite de l'histoire. Mais justement, on ne doit pas céder à tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible n'est pas
forcément
licite,
légitime.
N'est pas licite. Parce que justement, Camus disait, un homme, ça s'empêche. C'est notre nature de déborder, de vouloir tout. Oui, mais tu ne veux pas tout prendre. Depuis Adam, Dieu dit à Adam, de tous les arbres du jardin, tu pourras prendre, de celui-là, tu ne pourras pas. Donc c'est une limitation. Être un humain, c'est avoir une limitation, accepter cette limitation. Et on voudrait repousser ces limites au-delà de tout ce qui est pensable. Donc, je pense qu'il faut qu'une société ait le courage de dire non.
Bien sûr. On va clôturer l'interview dans pas longtemps, parce que le temps passe vite. Mais est-ce que vous avez un dicton préféré ? Enfin, ou une citation préférée ? Vous en avez beaucoup, parce que j'ai vu notamment une que j'ai entendue, que j'ai adorée, de Charles Péguy.
Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées.
Ouais, j'ai trouvé ça, connaissais pas, et c'est tellement vrai.
Va pour celle-ci.
Ok. Et ensuite, est-ce que vous auriez un coup de cœur et un coup de gueule à passer ? C'est des questions que je passe que je pose toujours à mes invités.
Coup de gueule, okay. Coup de cœur, c'est.
Ça peut être un livre.
Pour des livres formidables que j'ai lus là, récemment. Il y a beaucoup de livres incroyables. J'ai lu un livre d'une fille qui s'appelle Elisabeth Bost et d'une autre fille qui s'appelle Madame Dufour, où elles interviewent toutes les deux des personnes qui ont perdu leur père ou leur mère jeunes.
Très jeune.
Comment ils se construisent. Jean-Pierre Alcabache.
Ouais.
Johann Sfar. Clémentine Autain. Nicolas Hulot. Serge Klarsfeld. Maître Temim. Bref, des gens qui ont réussi à se construire. Anne Goscinny.
Ouais.
avec l'image de l'absence, avec parfois un terrible secret, on ne l'aura pas dit pendant des années. Mais cette mise côte à côte d'histoires toutes différentes, avec des constantes, des invariants liés à l'absence, nous fait à la fois ressentir la souffrance, qui est parfois un moteur extraordinaire, et en fait, notre responsabilité, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu ma responsabilité par rapport à mes enfants pour les accompagner, pour essayer de les faire grandir en étant eux-mêmes, tout en leur donnant quelque chose de moi. C'est la difficulté. Il faut être capable, en fait, d'apprendre à ses enfants à être libre de soi. J'ai jamais supporté les parents qui donnent le sentiment à leurs enfants « Je t'ai tout donné, tu me dois tout. » Mais rien du tout. C'est les enfants qui me donnent beaucoup plus. Et ce livre m'a percuté vraiment. Je veux dire, je l'ai fini Shabbat. J'ai appelé la fille qui l'a écrit Shabbat après Shabbat, donc tard. Pour lui parler, on a parlé plus d'une demi-heure. Parce que je trouvais des choses merveilleuses. Par exemple, Johann Sfar explique quelque chose que l'on ne pense pas. On dit, tu as perdu ton père. En l'occurrence, pour lui, tu as perdu ta mère. Perdu ta mère. Comme on perd un doudou. Donc tu es responsable de quelque chose. Le mot projette une responsabilité sur l'enfant. Et pourquoi le petit ?
C'est vrai.
C'est terrible. On ne se rend pas compte comment les mots créent une réalité de représentation de notre esprit. Et moi, je crois que dans ma première communauté importante, Reims, je me rappelle mon discours d'installation, je leur avais dit, je rêve de vous apprendre à vous passer de moi, que vous soyez capable, vous-même, d'interpréter, de comprendre les textes. Je crois que toute la force de l'éducation des parents envers leurs enfants, c'est qu'ils nous aiment si possible, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué,
tu honoreras tes parents.
Honore ton père et ta mère, de ta mère et ton père, tu craindras. Mais il n'y a pas marqué tu aimeras. Il y a marqué tu aimeras ton Dieu, il y a marqué tu aimeras l'étranger, pas tu aimeras tes parents. Mais leur apprendre à se passer de nous. C'est-à-dire, les aimer tellement qu'on est prêt à ce qu'ils s'éloignent si c'est pour leur bien. En fait, c'est ce que disait Nietzsche, puisque vous vouliez une citation là-là. On ne possède réellement que ce à quoi on renonce.
Exactement.
Et je crois que le plus dur pour certains parents, c'est d'accepter que nos enfants, que les enfants fassent une vie qui n'est pas celle qu'on rêverait, c'est qu'ils fassent leur choix. Et moi, je crois qu'il faut accompagner les enfants. Et je l'ai compris dans ce livre, où on voit que ces enfants se construisent, y compris d'ailleurs dans une réécriture de la grandeur des parents, qui ne sont pas idéaux. Les parents ne sont pas toujours des parents parfaits. Mais en tout cas, on voit comment leur absence de repère, permet aussi de se construire, en tout cas différemment. Donc, je me dis, voilà, c'est une façon, ce livre m'a bouleversé, c'est mon coup de cœur.
Rappelez-moi le titre, j'ai pas noté le titre, j'ai noté les auteurs, mais pas le titre.
Eh ben, c'est un livre formidable, et d'accord, il faut retrouver le titre.
D'accord, je vais regarder, okay, titre non, je pensais que vous me l'aviez dit, mais je l'avais pas noté. Je vais chercher, je le préciserai. Dernière question, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
On a toujours envie d'acheter. Non, on a toujours envie d'acheter des choses, mais je crois qu'il est important de partager l'expérience. C'est Elie Wiesel qui disait, entendre les témoins, c'est devenir un témoin soi-même. Et moi, je pense que la transmission se fait aussi par le partage. Et que paradoxalement, dans un siècle où il y a tellement de blogs, de podcasts, d'émissions, de chaînes télé, les gens restent enfermés chez eux.
Je suis d'accord.
Et ils restent collés pour les jeunes.
Une expérience qui n'est pas partagée, c'est la trahir.
Vivre une expérience et ne pas la partager, c'est la trahir. Donc, au fond, moi, j'essaie de partager mon expérience. Et j'essaie de casser ces enfermements où on fonctionne tous par silos. Et on est les mêmes, donc nous sommes les mêmes et je parle avec les mêmes, donc je ne veux pas tellement. C'est le principe des algorithmes des réseaux sociaux. Il faut casser ça pour retrouver la capacité à parler avec tout le monde.
Se mélanger.
Oui, rester soi-même, mais vivre avec les autres. C'est le principe même de l'humanité et je trouve que c'est une belle façon de répondre à cette pulsion séparatiste. C'est de dire, mais Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Quand il a fait l'humanité, bon et méchant, ça existe, c'est vrai. Mais pour Dieu, ce sont tous ses enfants. Quand les Hébreux chantent après le passage de la mer Rouge, les anges chantent. Et ils demandent à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu ne chantes pas ? Et il leur répond, mes enfants, les Égyptiens, Maase Yadai, la création de mes mains, tu es en train de mourir, vous voulez que je chante ? En fait, qu'est-ce que Dieu rêverait ? qu'on soit capable de tous chanter ensemble. Donc voilà, moi c'est ce à quoi j'essaye de travailler.
Merci Monsieur le Grand Rabbin.
Un plaisir, bravo.
À bientôt.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.